Dieu est saint, glorieux et digne d'être adoré. Et parce qu'il est saint et qu'Israël était son peuple qui lui appartenait, ceux-ci devaient donc également être saints. Et la loi et les sacrifices étaient ainsi là pour satisfaire à cet unique objectif. Voici, à travers ce que nous a dit Laura, le résumé, d'une certaine manière, de tout l'Ancien Testament. Mais on le sait, le peuple dans son ensemble s'est détourné de Dieu et de cet objectif. Il s'est détourné à tel point que Dieu a choisi de faire une nouvelle alliance, un nouveau testament. Et c'est là que nous, chrétiens de tous les peuples, nous apparaissons. Non-juifs, enfants des nations, nous avons été par la foi intégrés au peuple de Dieu. Et dorénavant, nous aussi, nous lui appartenons. Mais du coup, se pose donc à présent la question de notre sainteté. Cette problématique si sérieuse, on l'a dit, dans l'Ancienne Alliance, est-elle encore aujourd'hui essentielle? Ou bien alors, à nouvelle alliance, nouvelle préoccupation et nouvel objectif? Qu'en est-il de notre sainteté? Nous lisons, pour introduire notre réflexion sur ce thème, un passage qui se trouve dans la première lettre de Pierre. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Une référence explicite, mot pour mot même, à l'Ancien Testament. Oui, visiblement, si on en croit ce texte, nous sommes concernés par le même objectif que celui qui était donné aux Israélites et que nous a rappelé Laura. Notre appel à la sainteté est aussi présent, aussi sérieux et aussi vital que celui du peuple d'Israël. Ce qui est, après tout, assez logique, puisque Dieu est le même Dieu, toujours aussi saint. Pour autant, au-delà de la continuité de cet appel, ce texte de Pierre laisse néanmoins transparaître, me semble-t-il, quelques nouveautés et quelques changements autour de cette problématique. Plus précisément, je dirais qu'il affirme trois vérités concernant la question de notre sainteté. Oui, ce texte est pour nous, pourrions-nous dire, un appel à la sainteté, mais à une sainteté à trois dimensions. C'est ce que j'aimerais vous proposer de développer ensemble ce matin. Nous découvrons la première dimension au début du passage. C'est pourquoi, dit Pierre, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Un texte sur la sainteté, donc, mais où il est d'abord question d'espoir, de grâce et surtout de Jésus-Christ. Voici la nouveauté majeure par rapport à l'Ancienne Alliance. Car, comme nous ne pouvions définitivement pas réussir à être saints par nous-mêmes, le péché nous maintenant irrémédiablement éloignés de ce respect parfait de la loi parfaite de Dieu, alors Jésus lui-même, Fils unique et bien-aimé de Dieu, Dieu fait homme, est venu sur terre pour offrir à tous ceux qui le veulent, bien sûr, grâce à son sacrifice, une sainteté objective, parfaite. Soyez saints comme je suis saint, dit Dieu. Eh bien, Jésus a accompli cette réalité pour nous. mais vous avez été lavés, nous dit la Bible, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Quelles promesses incroyables trouvons-nous dans ces quelques paroles. Oui, cette sainteté réelle, effective, que Jésus nous offre, est unique. Comprenons bien, de quoi est-il question exactement quand on parle de son œuvre de sainteté en notre faveur ? Eh bien, il est d'abord question de l'expiation complète de notre péché. C'est-à-dire que Jésus a tout payé pour nous. Il a été victime à notre place du châtiment que nous méritions à cause de nos manquements moraux. Il est question ensuite de rédemption ou de rachat. L'accusateur réclamait un prix sur nos têtes face à notre échec à la sainteté. Mais Jésus a racheté ce prix pour nous offrir la liberté éternelle au lieu de l'enfer. Il est question encore de propitiation, qui est un mot bien barbare, mais qui veut juste dire qu'à cause de nos fautes, le Dieu saint était en colère contre nous, et une colère sainte, justifiée, mais que Jésus, par sa mort, a apaisé cette colère. Et de fait, il est donc aussi question de réconciliation. En apaisant la colère de Dieu, Jésus nous a réconciliés avec Dieu et nous permet ainsi, en nous revêtant de sa propre sainteté, de pouvoir nous approcher de lui. Enfin, il est également question de justification. C'est-à-dire que, recouverts par la sainteté de Jésus, nous pourrons, au jour du jugement, être déclarés justes devant le tribunal de Dieu. Beaucoup d'expressions que le temps, bien sûr, nous empêche de détailler aujourd'hui, mais qui, simplement en les énumérant, nous montrent toute la grandeur de ce qu'a accompli Jésus pour nous. Chers amis, nous sommes saints en Jésus, et être saint, c'est tout cela. Et nous mesurons d'ailleurs à quel point cette sainteté que nous obtenons à travers son sacrifice est infiniment supérieure à celle qui provenait des sacrifices d'animaux au temps du Lévitique. Celle-ci, la Bible nous le dit, n'était que symbolique, car il est impossible que le sang des boucs ôte le péché de l'homme, alors que celle accomplie par Jésus est véritable. Celle-ci devait être répétée jour après jour, alors que celle accomplie par Jésus a été réalisée une fois pour toutes. Et puis, celle-ci était partielle, les péchés les plus graves ne pouvant être pardonnés, Laura nous l'a redit, alors que celle accomplie par le Christ est totale. Oui, une sainteté objective, parfaite et absolue qui nous est gratuitement donnée. Voici notre première dimension. Et une dimension si essentielle que nous sommes simplement invités à accueillir avec joie et reconnaissance. Nous continuons. Car après tout, une fois qu'on a dit ça, avons-nous en fait tout dit sur notre sainteté ? Puisque Jésus nous rend entièrement saints, pouvons-nous alors en conclure que la question n'a plus lieu d'être pour nous aujourd'hui ? Et, corollaire immédiat, du coup, pouvons-nous donc maintenant vivre comme bon nous semble, puisqu'il a fait tout le travail de sainteté à notre place ? Voici la fameuse question que toutes les générations de chrétiens ont dû se poser au moins une fois dans leur vie. Et la réponse, bien évidemment, est non. Non, la question de notre sainteté n'est pas obsolète. Elle est toujours d'actualité. Et elle est même toujours centrale. Nous lirons juste ce verset de la lettre aux Hébreux qui nous le rappelle avec force. Recherchez la sanctification, dit l'auteur. Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Plutôt limpide. Mais c'est vrai que ça paraît quand même un peu paradoxal avec ce qui précède. Alors, qu'en est-il ? Ce dernier texte signifierait-il que Jésus n'a finalement pas tout accompli ? Et qu'il faudrait à présent compléter son œuvre de sainteté par la nôtre ? Non. Non, puisqu'on l'a vu, la sainteté qu'il nous donne est complète, parfaite et absolue. Il n'y a rien à ajouter de notre part pour être saint devant Dieu. Mais alors, pourquoi ne pas rechercher cette réalité dans notre vie pourrait malgré tout nous priver de voir Dieu ? Eh bien, simplement, je crois, parce que cela voudrait dire alors, dans un tel cas, que nous n'avons juste rien compris à ce qu'a accompli Jésus. Oui, réfléchissons. Si nous venons à lui pour être saints, c'est-à-dire pour pouvoir être libérés du pouvoir du péché sur nos vies, mais tout en laissant circuler ce péché sans contrainte en nous, c'est qu'il y a effectivement de notre part une véritable incompréhension de ce qu'il a réalisé. Ou de la même manière, si nous voulons que notre relation avec Dieu soit restaurée par Jésus à la croix, mais tout en n'ayant aucunement le désir de chercher à éliminer ce qui entache encore cette relation avec lui au quotidien, est une attitude qui témoignerait d'une grande incohérence de notre part. Non, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et ceci nous amène donc à notre deuxième dimension. C'est ce qu'on appellera la sainteté progressive. C'est-à-dire une recherche de la sainteté pas à pas, mais qui est juste notre réponse inévitable, réponse d'amour et de reconnaissance, à la sainteté parfaite qui nous est offerte en Jésus. Alors, que nous apprend la Bible au sujet de cette sainteté progressive ? Eh bien, si nous revenons à notre texte de 1 Pierre, nous lisons dans un premier temps « Un enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Un verset qui interpelle, me semble-t-il. Il interpelle car il a l'air, sur cette question de la sainteté, de faire apparaître deux époques différentes. Autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, en opposition donc avec aujourd'hui, maintenant. Oui, dans notre marche vers la sainteté, tout semble se fonder sur une rupture, sur un avant qui ne nous permettait pas de devenir de plus en plus saints, et sur un après qui rend cette réalité accessible. Et si Pierre ne l'explicite pas ici, cette rupture, nous savons d'où elle provient et à quoi elle fait référence. Elle nous renvoie au don du Saint-Esprit. En nous rendant objectivement saints à la croix, Jésus, en plus d'accomplir l'expiation, la rédemption et tous les autres, rend également possible une autre œuvre, celle qu'on appelle la régénération, c'est-à-dire la venue de l'Esprit dans notre être intérieur qui nous fait mourir à notre ancienne vie pour nous faire naître à une vie nouvelle. C'est, pourrions-nous dire de manière un peu triviale, c'est ce qu'on pourrait appeler le deuxième effet qui se coule de la croix. Mais un deuxième effet qui change tout pour notre question du jour. Car oui, c'est seulement parce que le croyant est né de l'Esprit et que cet Esprit demeure en lui qu'il va pouvoir dorénavant croître dans cette sainteté progressive qui plaît à Dieu. Vous connaissez peut-être cette prophétie que l'on trouve dans le livre d'Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau, dit Dieu, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Notre deuxième dimension est donc celle-ci. Une sainteté progressive réalisée par la venue de l'Esprit en nous. Et oui, chers amis, vous l'aurez noté, c'est encore Dieu qui est à l'œuvre ici. Non content d'être celui qui nous offre notre sainteté véritable en Jésus, il est aussi celui qui construit notre sainteté progressive. La Bible l'affirme. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Oui, seul l'Esprit extérieur à nous-mêmes a réellement la capacité de nous transformer. Nous ne pouvons pas y arriver seuls, par nos propres forces. C'est un peu, en cette période estivale, c'est un peu comme si vous souhaitiez rafraîchir la température de votre maison. Vous pouvez essayer de battre des bras autant que vous voulez au milieu de votre salon pour faire du vent. Mais il y a peu de chances que ça change grand-chose à la température. En revanche, si vous laissez entrer le vent frais du matin, alors là, oui, il y aura une véritable différence. Ainsi en est-il de l'Esprit. Mais bien entendu, pour rafraîchir ainsi notre maison, il nous faudra bien sûr quand même prendre la décision d'ouvrir les fenêtres, de faire des courants d'air et de laisser le vent circuler à travers les pièces. Et de la même manière, évidemment, pour grandir en sainteté, il nous faut aussi prendre l'habitude de laisser l'Esprit circuler librement en nous. Comment ? Comment le laisser circuler ? Eh bien, je dirais simplement en étant disposé d'abord à le laisser agir dans toutes les pièces de nos vies, en lui en donnant le droit, en lui exprimant notre désir qu'il le fasse. Et puis également en nous rendant disponibles et en favorisant son œuvre, en demeurant pour cela au plus proche de Dieu et de sa parole, afin qu'il ait les moyens et les occasions de nous transformer. Oui, être disposé et disponible, voici ce qui permettra toujours à l'Esprit de faire son œuvre de sanctification de nos cœurs. Une sainteté objective offerte en Jésus, une sainteté progressive réalisé par l'Esprit. Et nous arrivons à présent à notre troisième et dernière dimension. Mais elle démarre en fait, comme la précédente, sur une note un peu paradoxale. Car après tout, on pourrait se dire une fois de plus, « Ah bon, c'est l'Esprit qui me rend saint petit à petit ? Cool, je vais donc le laisser faire et attendre patiemment que ça se passe. » Eh bien non plus. Non. Même si notre sainteté progressive est effectivement l'œuvre de l'Esprit, elle nécessite néanmoins aussi notre participation active. Alors il y a ici sans doute une articulation qui nous échappe un peu. Une articulation entre ce rôle de l'Esprit et le nôtre qui nous dépasse un peu, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, retenons ces deux vérités ensemble, car la Bible est claire. La marche vers la sainteté provient bien du travail de l'Esprit auprès duquel il nous faut donc rester, comme on l'a dit. Mais elle n'en demande pas moins également une volonté et des efforts conséquents de notre part. Pierre, à la fin de notre passage, dit « Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » C'est-à-dire, faites votre part. Et même, ne la faites pas à moitié, mais au contraire, usez de toute la détermination nécessaire pour cela. Mais alors, en général, c'est vrai, quand on en arrive à ce point, j'ai parfois la sensation qu'on est moins emballé, n'est-ce pas ? Et dans nos églises évangéliques, où on aime tant, à raison bien sûr, à raison, mettre en avant, la grandeur de la grâce qui nous est offerte par Jésus et également la beauté de l'œuvre de l'Esprit, On est parfois, me semble-t-il, même un peu gêné quand on en vient à parler malgré tout de discipline et d'efforts constants et répétés pour être de plus en plus saint. À moins que ce ne soit alors une question d'époque et de société. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas toujours très chaud avec l'idée de discipline. Mais en tout cas, la Bible, elle, ne laisse planer aucun doute là-dessus. Quelques versets choisis pour nous en convaincre si besoin. C'est pourquoi, mes chers amis, dit Pierre, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Prends ces choses à cœur, disait Paul à Timothée. Consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. C'est pourquoi, dit Paul, je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement. Et ainsi de suite. Bien d'autres passages abondent dans ce sens. Mais c'est sans ambiguïté, n'est-ce pas, de lire ça. Si nous voulons vraiment grandir en sainteté, nous n'allons pas pouvoir faire l'économie du prix à payer pour cela. Car oui, rechercher la sainteté coûte. Oui, prendre la résolution de faire le bien, choisir de faire ce qui plaît à Dieu en toute occasion et dans tous les domaines, coûte toujours plus cher. Cela demande de la volonté, du sérieux et de la discipline au quotidien. Cela demande de l'entraînement et de la persévérance, car ces choses viennent rarement toutes seules. Et Paul, déjà encore lui, le répétait à Timothée, « Entraîne-toi, lui disait-il, entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. La piété, elle, est utile à tout. » C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. En effet, si nous nous donnons du mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. C'est là ce qu'il te faut recommander et enseigner. S'entraîner à la sainteté. Vivre constamment à l'école de la sainteté. Moi, j'aime beaucoup cette image. Peut-être vous penserez que c'est une déformation professionnelle, mais oui, nous sommes à l'école de la sainteté. Et c'est une école plus importante encore que l'école de la République. Et nous avons besoin à cette école, en collaboration avec cette œuvre de l'Esprit en nous, à qui nous voulons faire la place, on l'a dit, puisque c'est lui la source de tout changement, bien sûr, mais en collaboration avec l'œuvre de l'Esprit, nous avons besoin aussi à cette école de la sainteté, de travailler quotidiennement nos matières, nos différentes matières de sainteté. De quelle matière est-ce qu'on parle? Parce que c'est bien d'être précis. De quelle matière est-ce qu'on parle? Eh bien, on pourrait les découper de la manière suivante. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de faire ce genre de découpage, parce que ça nous permet d'avoir une vision plus claire des choses et de savoir précisément où on va. Voici un découpage possible des matières que nous devons travailler chaque jour. Matière numéro 1, l'humilité. Le nom se suffit à lui-même, je crois, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Mais une matière tellement essentielle, tellement centrale. On pourrait dire que ce sont ici les mathématiques de l'école de la sainteté, sans parti pris. Matière numéro 2, l'intégrité. Mais l'intégrité en tout. Cette intégrité qui nous pousse à proscrire tout mensonge. Vous savez, même ce petit qui nous tire si bien d'affaires. Ou encore qui nous pousse à éliminer le vol sous toutes ses formes. Et je pense notamment ici, car il est plus subtil, à celui où on ne risque rien. Vous savez, sur Internet. Et ainsi de suite. Matière numéro 3. La maîtrise de nos désirs, une matière au gros volume horaire. On pensera bien évidemment ici à la question du contrôle de notre sexualité, jusque dans nos pensées, bien évidemment. Mais aussi à la sobriété par rapport à tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, ou encore, très symptomatique de notre temps, la sobriété par rapport à tout ce que nous achetons, maîtriser nos désirs. Matière numéro 4, la gratitude. La gratitude ou l'entretien dans nos cœurs d'un état d'esprit qui est ancré dans le contentement. Un état d'esprit qui choisit résolument de rejeter les insatisfactions permanentes telles qu'on les connaît à tous les niveaux dans notre monde, pour s'attacher simplement à être reconnaissant de ce qu'on a. Reconnaissant envers nos proches, ou encore aussi reconnaissant envers notre pays, et ainsi de suite. Matière numéro 5, l'usage de la langue. Une matière particulièrement ardue, s'il en est, n'est-ce pas ? La hantise des étudiants, peut-être. Une matière, en tout cas, qui va nécessiter un apprentissage long et constant pour toujours rejeter la critique de l'autre, pour toujours rejeter l'esprit de jugement vis-à-vis de l'autre, pour tout et n'importe quoi. Mais pour choisir, au contraire, l'encouragement, et même l'encouragement en abondance. Matière numéro 6, l'empathie. L'empathie, c'est-à-dire cette dynamique de pensée en nous qui va consister à voir l'autre comme Dieu le voit, à chercher à le comprendre, à chercher à se mettre à sa place, à partager ses joies et ses peines. Bref, un schéma qui consiste à m'entraîner, à me décentrer de moi-même, dans ma tête et dans mon cœur, pour donner la même valeur que moi à cet autre à côté de moi. Et puis enfin, pour terminer, matière numéro 7, la générosité. Et j'entends ici une générosité à tous les niveaux, financière évidemment, en donnant largement, mais aussi une générosité dans le temps qu'on va accorder aux autres pour nous mettre à leur service d'une manière ou d'une autre. Ou encore une générosité aussi dans la grâce offerte aux autres, avec cette fameuse dimension du pardon à donner à tous ceux qui nous le demandent, et ainsi de suite. Et tous ces domaines trouvant bien évidemment leur fondement pour être agréés de Dieu, leur fondement dans notre attachement à lui et dans sa priorité sur nos vies. Car ne l'oublions pas, le premier pas de la marche dans la sainteté sera toujours de remettre Dieu à la place qui est la sienne. En tout cas, nous constatons à travers ce panorama que nous avons de quoi faire au quotidien. Ça pourrait presque nous décourager, en fait. Mais je me dis, c'est un peu finalement comme ce jeune étudiant qui entre en classe, en terminale par exemple, parce qu'on a beaucoup d'objectifs, et qui se rend compte de tout ce qui l'attend. Et qui parfois, c'est vrai, panique un peu. Et alors tout le travail à ce moment-là va être de lui montrer qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Que petit à petit, toutes ces choses vont réussir à trouver leur place sous la conduite de l'esprit. Mais à la condition, bien sûr, qu'il accepte de jouer pleinement le jeu. J'aime à penser que Dieu fait ainsi. Il est patient, oui. Et il nous rassure, oui. Ça, c'est une certitude. Mais en même temps, il vient nous motiver et nous réveiller même parfois si besoin pour qu'on demeure dans une marche résolue et déterminée vers cette sainteté progressive qu'il honore. Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre cheminement. Je résume en deux mots pour conclure. Parce qu'il est saint, le Dieu à qui nous appartenons nous appelle avec force à être saints nous-mêmes. Mais ce faisant, il met devant nos yeux une sainteté à trois dimensions. Une sainteté objective et parfaite d'abord, inatteignable par nos propres moyens, mais qui nous est gratuitement et pleinement offerte par l'œuvre de Jésus à la croix. Une sainteté qui accomplit tout en ce qui concerne notre rapport à Dieu et que nous devons juste recevoir avec joie et reconnaissance. Mais une sainteté qui trouve ensuite un écho comme étant l'expression simplement de notre désir de devenir concrètement ce que nous sommes déjà devenus en Jésus. Une sainteté progressive, nous l'avons dit, rendue possible par notre nouvelle naissance et par le don de l'Esprit. Car c'est cet Esprit qui est celui qui nous transforme de l'intérieur pour peu que nous lui donnions l'occasion de le faire, en lui ouvrant nos fenêtres et notre cœur et en demeurant au plus près de lui. Mais une sainteté progressive qui ne fait pas l'impasse malgré tout sur notre rôle pratique à jouer et qui demande donc aussi une discipline résolue et un entraînement constant de notre part pour pouvoir réellement s'exprimer dans notre vie. La marche vers la sainteté. Tel était l'objectif sérieux du peuple d'Israël au temps de l'Ancienne Alliance. La marche vers la sainteté. Tel est encore l'objectif sérieux que Dieu nous donne dans notre vie aujourd'hui. Alors, puisse-t-il nous conduire avec détermination et enthousiasme sur cette route? Oui, puisse Dieu nous remplir de sa grâce et de la beauté de son œuvre, afin que nous débordions de désir pour sa gloire. Amen. Pour conclure, je voudrais vous inviter à chanter un chant. C'est un vieux chant, mais tellement pertinent, je trouve. Dans les trois premières strophes de ce chant, les paroles nous rappellent à quel point ce que Jésus a fait est extraordinaire. Combien cela est tout pour nous. Et puis, dans la dernière strophe, à la lueur de ces réalités prodigieuses, il proclame alors notre choix de marcher dorénavant vers lui de toutes nos forces. Puissions-nous faire notre chacune de ces paroles.